écoute, bonjour ou bonsoir, c'est dans quelle heure on écoute l'émission. Nous voilà pour la deuxième fois bien de la saison à La Cabane, sur la hauteur de Canet, chez notre ami Bruno Antoniente, qui va nous rejoindre ici un petit moment. Et là, ce soir, il y a beaucoup de monde qui nous a rejoint, on sent que c'est l'été. Hein. Et, l'hiver, il y a moins de monde, donc voilà, le froid, ça tétanise les envies. Et bien ce soir, nous allons pour la première fois de la saison nous retrouver après une victoire des Dragons, ce qui est quand même un cas exceptionnel, puisque jusqu'à présent, quand on s'est retrouvé, c'était après une défaite. Donc, et c'est une réalité, mais bon, et tant mieux, comme quoi avec des beaux jours, tout arrive. Alors, à mes côtés, une nouvelle fois, Olivier Gondran, président de l'Amicale des Dragons d'Ille-sur-Tête, de la tête, c'est ça, Louis Bonnery, président de la Ligue Languedoc-Roussillon, René Montala, le papa du Forum, Pierre Vergès, le papa des Dragons,
du camp des Dragons.
Du camp des Dragons.
Bonsoir.
Hervé Guiraud, secrétaire général de la Fédé, qui est papa de ses enfants également. C'est quand même assez exceptionnel aussi. Stéphane Germain, qui est l'ancien entraîneur de Paris 13 et qui est actuellement président du comité d'Île-de-France. C'est toujours ça, on est d'accord. Jean-Marie Bousquet, président de l'Amicale des Dragons de Saint-Cyprien. Bonsoir. Des supporters indéboulonnables de la tribune Bonshommes, notre ami Didier Delaunay et Antoine Noguera, qui est également manager général de Palo 13, champion de France, rappelons-le. Fabienne Roche, l'épouse de Monsieur Jean, photographe de l'Indépendant, qui a pris sa retraite il y a peu, et Hervé Girette, lui-même à Sport Choc TV, exactement, et Thomas Bosque, le capitaine des Dragons, qui a fait le chemin jusqu'à Canet pour nous rejoindre. Donc Thomas, on va s'adresser à toi de suite, parce qu'on sait que tu as l'entraînement qui commence à 22h, c'est ça, ce soir, non? Non? On s'est trompé, on a été mal informé. Prends le micro, Thomas. Une première question, donc, je le répète, c'est la première fois de la saison qu'on se retrouve autour de cette table, autour de Forum Rugby 13, après une victoire des Dragons. Une victoire qui fait du bien, je présume, surtout que face à Warrington, à Aimé Giral, il y a de ça, donc, 10 jours maintenant, c'était avec la manière.
Ouais, c'est vrai que ça a été un petit peu avec la manière, c'est très bien passé. On est tombé face à une grosse équipe de Warrington, mais on a quand même fait un gros match, une très belle performance et la victoire au bout, donc c'est vraiment très bon pour la suite et j'espère pour cette demi-finale qui arrive d'ici peu.
Qu'est-ce qui fait que vous ayez si vite rebondi après une nouvelle défaite à la maison face aux Crusaders? Comment en l'espace d'une semaine vous avez pu complètement être chamboulé au niveau de votre comportement?
Ben, malheureusement, c'est vrai que ça fait depuis, je pense que c'est depuis le début de la saison où on n'arrive pas du tout à être régulier. On n'a pas réussi à faire deux victoires à la suite, donc ça a été un petit peu dur. Et donc après, on a réussi à rebondir après ce match qui a été très très difficile face au Celtic où vraiment on passe vraiment à côté. Alors que la victoire, enfin, on pouvait vraiment gagner ce match. Et on réussit une très belle performance face à Warrington, un gros match. Maintenant, à nous de se préparer là-dessus.
Ceux qui sont ravis, forcément, ce sont les supporters, hein, puisqu'on est tous supporters, quoi qu'il en soit. Mais bon, Didier, Antoine, la première fois que vous venez ici, je pense que vous avez des choses à dire, vous également, par rapport à cette victoire. On a souffert jusqu'à présent, et puis cette fois-ci, c'était un grand éclat de joie. Donc, comment vous l'avez vécu, ce match-là, Didier?
Le match s'est très bien passé, les joueurs se sont mis au diapason, tous les uns des autres. Je pense qu'une chose a changé dans cette équipe depuis qu'il y a un maître à jouer qui est arrivé, en l'occurrence
Brent Sherwin.
C'est pas pour parler de Thomas Bosque, qui jusqu'à présent, malheureusement, était un peu esselé dans cette équipe. Mais je pense que depuis son arrivée, il y a des choses qui se mettent en place et que les joueurs, tous les joueurs vont dans le même sens et tout le monde va au sacrifice. Et nous avons retrouvé la même équipe que nous avions il y a un an en arrière.
Antoine, toi qui as joué à la mêlée, toi qui connais bien ce poste, Sherwin est arrivé. Est-ce que c'est Sherwin Zoro ou pas?
Je ne sais pas si c'est Sherwin Zoro, mais ce qu'il y a, c'est que effectivement, au niveau de la charnière, c'est un grand complément et ça a aidé énormément Thomas. C'est que autant dans le jeu à la main, il est extraordinaire. Et Sherwin dans le jeu au pied, je crois qu'il n'y a pas mieux actuellement dans la Super League. Parce que quand on voit ces trois coups de pied à la perfection, et surtout un de Thomas, je pense que là, c'est le point de complémentarité concernant la charnière.
Thomas, tu es rassuré au niveau du jeu au pied, tu es surtout soulagé?
Surtout soulagé, parce que depuis qu'il est arrivé, vraiment, on se partage le boulot. Enfin, que ce soit même à la main, au pied, on se partage vraiment le boulot. Les stats en font la preuve sur le week-end dernier, où vraiment il y a 50-50 sur les prises de balles, sur le jeu au pied. Donc c'est vrai que c'est un plus pour moi, je pense, que d'être avec lui.
Bon, je suppose qu'autour de la table, à l'exception de Louis qui n'était pas là, il vient de nous le confier, hein. Je sais pas où il était, mais il n'était pas là, il n'était pas au match. Tant pis pour lui, t'as manqué quelque chose. Hervé Guiraud non plus, vous êtes parti en vacances ensemble, Hervé, ou ouais. Vous étiez où? On peut savoir.
À Cuisade, nous faisions les foins.
Vous faisiez les foins. Vous avez fait des foins, c'est original.
C'est vrai.
Tu as vu le match, Pierre, tu étais au stade, je présume, Jean-Marie?
Moi, j'étais au match. C'est vrai qu'on sent que l'équipe est en train de monter en puissance, hein, qu'il y a du changement, hein, qu'il y a une amélioration, qu'il y a un collectif qui est en train de se mettre en place. C'est vrai que peut-être l'arrivée de Sherwin fait du bien, mais on voit qu'il y a du mieux dans le collectif et que tout le monde adhère maintenant dans ce collectif et ça joue mieux. Et voilà, et la victoire est au bout et c'est bon pour le moral.
Ouais, l'apport de Sherwin, il est indéniable. Moi, je voudrais demander à Thomas s'il se sent mieux dans le rôle de meneur de jeu comme avant, comme l'année dernière, ou plus dans un rôle d'ouvreur lanceur d'attaque.
Comment t'appelles ça?
Plus dans le rôle de meneur de jeu, c'est-à-dire de
prendre le jeu
plan compte. De jeu, prendre le jeu à ton compte, ou plus en 6 ou en 7, à vrai
mais
dire.
Là,
plus dans un rôle de lanceur d'attaque et que dans de meneur de jeu global, quoi.
Ouais, c'est plus moi qui annonce quand même toutes les tactiques et tout, c'est moi qui annonce tout. Après, c'est vrai qu'on est chacun de notre côté avec Brent. De temps en temps, on va les deux du même côté ou quoi. Donc après, le rôle de meneur, je pense que tous les deux on l'a, que ce soit par notre côté ou quoi. On travaille surtout avec moi, plus particulièrement avec mon côté gauche, et lui plus particulièrement avec son côté droit. Donc meneur vraiment, non. Je suis pas vraiment meneur.
Oui, mais pour revenir à ce que dit Thomas, on s'aperçoit qu'il y a plus de variations dans le jeu des Dragons, surtout notamment lors des lancements d'attaque. On a vu venir Cyril Stacul venir chercher près à l'intérieur de Sherwin. Toi, on t'a vu aller chercher un peu plus loin au niveau des centres avec Den Carlo. Et c'est ce qui est intéressant, cette façon un peu de modifier le jeu de jeu.
Ce que je disais, moi je considère Thomas, bon, Antoine, je suis d'accord avec lui sur Sherwin, qui est l'un des meilleurs, peut-être l'un des meilleurs jeux au pied de la Super League. Mais moi, je suis persuadé que Thomas, c'est l'un des meilleurs passeurs de la Super League. Donc, voilà, à voir, quoi. Après, c'est intéressant d'avoir son avis,
puis,
on a la chance de l'avoir.
Il faut quand même pas oublier que le pack de devant ne rechigne pas, vu les castilles.
Effectivement, ils ont été monstrueux dimanche, parce que quand on parle d'une charnière, je crois qu'avant la charnière, il y a des piliers, il y a des mecs qui bossent dans l'ombre, et on sait l'état bon et l'agressivité qu'il faut mettre dans des matchs de ce niveau. Donc, moi, je pense que c'est très beau, très bien de parler de Sherwin dans son jeu au pied. Puis à un moment donné, je crois que les piliers ont fait leur boulot.
Ouais, mais moi, ce que je veux te dire, c'est que le week-end d'avant, il y avait les mêmes joueurs sur le terrain et ça n'a pas fonctionné. Alors, quelque part, on est en droit de se poser des questions. On ne comprend pas très bien pourquoi on n'arrive pas à aligner deux matchs de suite de haut niveau. Parce que bon, les Crusaders, c'est un loupé, quoi, les Crusaders.
Ouais, ils ont fait un bon match quand même, les Crusaders.
Ils ont fait un bon match, certainement. Warrington aussi a fait un bon match, c'est comme ça qu'on les a gagnés d'ailleurs. Mais bon, alors si je me pose des questions, qu'est-ce que c'est qui ne tourne pas? Comment se fait qu'on n'arrive pas à faire deux matchs les mêmes?
Par contre, concernant le match, j'étais pas moi le match, mais j'ai eu quelques échos. Il faut reconnaître aussi qu'on a nommé l'homme du match Sherwin, je crois. Oui. Hein, et Maiguar a été monstrueux quand même sur ce match-là. Parce que,
comme avant, contre les Crusaders.
Contre les Crusaders. D'accord.
Hervé Girette, à ton avis?
Oui, d'abord des joueurs de match, je pense qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu Rémi Casti, Jamel Fakir, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont explosé ce jour-là. Ce qui prouve que l'équipe a retrouvé une homogénéité. Mais moi, je voulais demander à Thomas, vu l'entente de plus en plus efficace qu'il forme avec Brent Sherwin, si ça ne lui rappelle pas un petit peu ses débuts aux côtés de Stacey Jones.
Ouais, c'est vrai que c'est quand même un petit peu différent, parce que moi quand j'ai commencé avec Stacey, moi je débutais, tout jeune, c'était mes tout premiers matchs, surtout à la charnière, j'avais débuté à l'aile ou à l'arrière, et après il m'avait donné un petit peu la chance à la charnière avec Stacey. C'était différent quand même, c'était différent, j'étais plus, c'était lui qui faisait tout, et moi j'étais juste à côté, lui filer un coup de main pour l'aider un petit peu, mais bon, c'est incomparable par rapport à l'entente qu'il y a là en ce moment avec Brent Sherwin.
Et Thomas, une question par rapport au match de samedi. On s'est aperçu que l'équipe a joué sur un tempo, ça a été un très très gros rythme. Mais est-ce que tu t'es pas aperçu que, notamment sur l'ailier que marque CX, je crois qu'il traverse tout le terrain, un certain manque de vitesse derrière. C'est pas pour critiquer les joueurs, mais est-ce que tu penses qu'avec un Clint Greenshield ou avec un Walker qui a une pointe de vitesse vraiment supérieure, ces essais, est-ce que tu penses que tu peux pas les prendre ou c'est une erreur de placement sur une contre parce que je crois que tu es contré à ce moment-là?
Ouais, je suis contré sur un jeu au pied. Et après, c'est moi aussi qui me fais prendre de vitesse par Chris X. C'est vrai que sur la vidéo, quand on le voit, c'est vrai que ça manque de vitesse. Peut-être qu'il faut que je le travaille plus particulièrement, mais après des mecs comme Greenshield ou Walker, où on sait qu'ils ont une grosse pointe de vitesse, peut-être qu'ils l'auraient rattrapé. Ça, on peut pas le savoir et on le saura jamais, je pense.
Et concernant Walker, justement, à l'entraînement, tu le sens prêt pour la demi-finale, parce que tout le monde dit qu'il va rentrer pour la demi-finale, mais c'est un garçon qui n'a pas joué depuis 3 mois. Comment tu le sens?
Ben pour l'instant, il fait quelques apparitions, donc il s'entraîne pas à 100% encore. Donc je sais pas du tout, c'est pas moi après qui vais prendre la décision de s'il joue ou pas. Mais bon, ça m'étonnerait après 3 mois de non-compétition, faire un match de ce niveau-là, ce sera quand même assez difficile. Ouais.
Thomas, si vous avez eu la vidéo cette semaine, est-ce que le coach a mis le doigt sur un replacement défensif un peu hasardeux, notamment sur les ailes? Moi, je trouvais ça assez criant. Est-ce que je me trompe ou pas?
Non, tu te trompes pas du tout. On s'est fait taper sur les doigts, vraiment. Surtout sur les essais qu'on prend sur mon côté, là, sur notre côté gauche. Vraiment, c'est des prises de décision qui sont pas au niveau de vraiment de la Super League. C'est vraiment, donc on a travaillé là-dessus et c'est juste les prises de décision. Après
ouais, mais le problème, je pense, excuse-moi de te couper, c'est que on a toujours le même mal, en fait. On a toujours le même mal dans le sens où tout le temps sur les ailes on a un ailier qui vient défendre au centre et avec une passe à longue, chaque fois on prend des essais, on part de la vitesse, effectivement ces gars ils vont très vite, mais déjà le mec quand il part sur une interception ou qu'il récupère un ballon comme ça sur une passe sautée, le type il a 10 mètres d'avance, donc pour le rattraper, déjà que nos ailiers ne vont pas trop vite, hein, sont vaillants tout ce que tu veux, mais ne vont pas trop vite, c'est un peu ennuyeux parce que chaque fois c'est le même mal, on prend des essais à la con, je dirais, alors que derrière on a marqué des essais magnifiques. Et en l'occurrence, je tiens à te dire félicitations, parce que tenter un coup de pied par-dessus ou deux ou troisième tenue, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est ton rôle. Hein. Et à l'avenir, je pense que c'est ce que tu dois faire, dans le sens, au moins, on verra un petit peu de spectacle, qui ne tenterait n'a rien. Parce que jouer petitement et ne rien apporter aux spectateurs, déjà d'une part, et au score, je pense que c'est pas d'évolution dans le rugby à 13.
À l'efficacité aussi.
Jouer, hein. Il faut apporter quelque chose pour un moment trouver de l'efficacité. Et si tu ne tentes pas comme tu as fait, tu n'auras jamais rien. Voilà, je le vois comme ça.
C'est moi, très bien. Félicitations. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Didier là, avec en parlant sous le contrôle de Thomas. Moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est que contrairement à Warrington, par exemple, on est incapable de marquer de loin. On commence à produire du jeu, à jouer à plusieurs passes dans les 30 mètres adverses. J'ai la très désagréable impression que tous nos adversaires le savent. Les meilleurs coups à jouer actuellement, et quand on regarde les équipes du haut de tableau, les meilleurs coups à jouer, ils les jouent entre leurs 30 mètres et les 50 mètres. Les défenses sont compressées au milieu, ils arrivent à avoir des transmissions longues et rapides, des ailiers qui ont du gaz, et ils mettent le feu. Nous, quand on est dans cette zone-là, on joue à zéro passe en partant derrière le tenu, ou à une passe. Des fois, on fait des changements de direction, on va s'enferrer, et les mecs, ils compressent, ils nous attendent. Est-ce que c'est ce qu'on vous demande, de pas faire de passe dans votre camp? Bon, moi je trouve ça, on est prévisible quoi. Après, on a des avants qui font un travail de fou, comme l'a dit Antoine. Ça avance, c'est quand ça avance, ça joue vite les tenues. On a plus de facilité, mais bon, on joue à zéro prise de risque dans les zones qui actuellement sont les plus, c'est là où il y a les meilleurs coups à jouer quoi. Et là, sur le match de Warrington, j'ai regardé que ça et Warrington a fait que ça. Ils ont attaqué à cette zone.
Excuse-moi, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, une équipe qui est fébrile, impérativement, elle prend moins de risques. Et quand tu as autant de défaites, tu as toujours peur de l'interception. Et compte tenu que tu n'as pas des ailiers qui vont très très vite, les essais, c'est beau de les marquer de 60 mètres, il faut avoir les gars pour pouvoir les marquer. Donc je pense que nous, on est obligé de construire petitement et arriver à jouer de bons coups près de leur but, malheureusement.
Ouais, bon, enfin, c'est des avis. Moi, j'en ai un peu assez d'entendre les techniciens parler... que de finir des chaînes tactiques, de compter les tenues. Attends, les mecs qui comptent les tenues, c'est pas des entraîneurs, c'est des comptables.
Je vais te parler, même à Palo 13, on nous demande de finir les chaînes. Donc, il y a une stratégie de jeu, donc finalement, on est...
Il n'y a pas que les élites qui doivent marquer ici aussi.
On peut faire des chaînes parfaites à une tenue, une passe. On va arriver à chaque fois au cinquième tenue, on aura grimpé. Donc les statistiques aussi.
Tu es d'accord par rapport à ce que dit Pierre.
On arrête de formater quoi.
Pour savoir ce qui se passe entre deux tenues surtout. Ce qu'il faut analyser dans les chaînes de jeu, c'est pas si on a fait 4, 5 ou si on est aux tenues, c'est ce qui se passe entre chaque tenue. S'il y a une passe en tenue, il y a une belle chaîne de jeu sur un bout de papier, mais qui ne correspond à rien sur le terrain.
On est en train de plonger.
Il y a des chaînes de jeu à zéro tenue qui conduisent à un essai sur sortie de mêlée sans tenue.
Antoine, on est en train de formater, on est en train de singer le rugby australien des années 90. Et actuellement, je sais pas s'il y en a qui ont vu des matchs NRL en ce moment.
On a un entraîneur qui est venu dans les années 90.
On regarde les matchs NRL. On regarde les mecs qui sont en haut de tableau. Alors, tant qu'il faut finir les chaînes, c'est évident. Mais maintenant, dans le rapport attaque-défense, il faut finir les chaînes, mais il faut produire. En Super League, si tu fais pas un exploit, tu marques pas.
Antoine, je vais te contrer un peu. Tu dis qu'on a un entraîneur dans les années 90. Le Mick Potter, les prises de risque, c'était où? Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup plus.
Il n'y avait pas trop de prises de risque non plus avec Mick Potter. Hein, donc peut-être qu'il y avait les joueurs, les autres joueurs.
Il faut appeler Jacques Jourda, quoi. Hein, c'est ça.
Pardon.
Il faudrait demander à Bruno, peut-être, qui suit les Dragons. Bruno, viens nous rejoindre. Toi qui suis les Dragons à l'extérieur, qui les a vus encore davantage que nous. Cette prise de risque, toi, par rapport aux années Potter, les années Walters, qu'est-ce que tu en penses? Plus de risque, moins de risque? Est-ce qu'il faut jouer davantage ou pas encore?
Enfin, visiblement, le leitmotiv au niveau chez les entraîneurs australiens, c'est déjà il n'y a pas de prise de risque. C'est beaucoup, c'est assez stéréotypé, c'est très lisible. Et ensuite, il y a quand même les joueurs qui ont cette particularité, ils ont quand même cette facilité à pouvoir libérer, à pouvoir faire ce qu'ils veulent quand même autour du tenu quand les espaces se créent. Donc je pense que quand même la clé, c'est le neuf qui la détient. Il y a ces 5 chaînes à compléter de temps en temps pour rester dans le match. Quand à la mi-temps ça va pas, on te demande de compléter 5 chaînes et de taper après. C'est sûr que dans ces conditions-là, ben c'est difficile de pouvoir proposer quelque chose par la suite. Mais il y a quand même quelques entraîneurs australiens. On le voit avec Wigan cette année, où il y a des prises de risque dans les 10 mètres, dans les 20 mètres. Il y a des ballons qui sortent. Donc je pense que ce qu'est en train de faire l'entraîneur de Wigan cette saison risque d'être peut-être copié. Espérons-le par les autres entraîneurs pour les années qui viennent. Enfin, moi j'ai vu cette année Wigan à 3 à 4 reprises sortir pas mal de ballons dans l'embut, sur terrain boueux ou pas, chose que beaucoup de clubs ne font pas, quoi.
Thomas, est-ce que tu as l'impression, toi, de jouer dans un système de jeu un peu hermétique, minimaliste ou pas vraiment?
Oui, c'est vrai que on a un plan de jeu chaque week-end, donc c'est vrai que là où je vous écoute et c'est vrai qu'on produit peut-être pas trop de jeux, mais maintenant il faut qu'on arrive à pas faire de fautes. Même si on n'y arrive pas, parce que quand on regarde les stats, malheureusement, on fait encore beaucoup de fautes. Et après, dans notre camp, c'est vrai qu'il n'y a pas de prise de risque. Il y a vraiment, compléter les 5 tenues et après aller jouer chez eux. On appelle ça jouer un bras de fer, et après c'est celui qui fera la faute le premier, et après pour espérer jouer dans leur camp et avoir une occasion d'essai.
C'est quoi, c'est la méthode australienne ça ou pas? Parce que quand on voit aussi les matchs australiens, c'est souvent un combat de bras de fer, et qui après il y a une équipe qui lâche et puis...
Attends, ça joue le feu à NRL en ce moment. Oui. Ça joue le feu et ça joue dans toutes les zones du terrain. Hein. J'ai vu 5 ou 6 matchs, c'est revenu sur Sky, c'est hallucinant.
D'accord avec toi, mais quand tu veux produire du jeu, il faut avoir les effectifs pour... Voilà. Toi malheureusement, tu te trouves actuellement avec une équipe, quand tu as 2 ou 3 blessés, et tu te retrouves handicapé et tu n'as pas la solution pour
produire du jeu. On est capable de le faire dans les 30 mètres adverses. Alors que les défenses sont...
Je ne me souviens pas cette saison quand même.
Mais là, encore là, tous les... Dans les 30 mètres adverses, on est capable de faire des trucs.
C'est facile de produire du jeu, mais moi, que je vois, quand tu vois l'effectif des équipes en Australie, tu te dis, les mecs, tous, ils sont grands, solides, ça joue à 2000, ça libère le ballon dans toutes les positions, ça défend, ça court de partout. Nous, malheureusement, on joue avec nos moyens aussi. Hein. Après, il y a tout un problème de budget, d'efficacité. L'efficacité, malheureusement, c'est le joueur qui l'a produit, l'efficacité. Hein.
Oui, c'est un problème de joueur parce que si on se rappelle John Mooney à Wigan, il faisait ce qu'il voulait parce qu'il avait Ofia qui était capable de, d'aller marquer dans un couloir de 2 mètres, un essai sur l'aile opposée.
Parce qu'il a fait des brèves à l'équipe de France, il n'a rien apporté. Hein.
Mais tout le monde n'est pas Ofia. Voilà. Donc on adapte aussi le jeu en fonction des éléments.
Tout
voilà.
À fait.
Et moi, c'est je voudrais revenir à une question qui finalement pour moi reste quand même importante à l'heure actuelle. Est-ce qu'on n'a pas abandonné dans l'esprit général des Dragons à l'heure actuelle, je ne dis pas qu'on a tiré un trait sur le championnat, mais est-ce que l'objectif unique et essentiel et fondamental de la saison, c'est pas la construction depuis plusieurs semaines d'un collectif pour battre Warrington en demi-finale de la Coupe ? Parce que pour moi, c'est la stratégie actuelle du club. Tout le reste, même si c'est pas affiché, est-ce que Thomas, est-ce que vous sentez, vous, dans l'entraînement, qu'on est en train de bâtir ce que j'appelle peut-être le casse du siècle en matière de Super League, qui serait un exploit à la hauteur des Dragons, je le pense très sincèrement.
Mais c'est vrai que malheureusement, il ne reste plus que ça. Il ne reste plus que la Coupe. Et à championnat, on est malheureusement dernier. Et après, on prend les matchs comme ils viennent. On prend les matchs comme ils viennent. De toute façon, il faut gagner des matchs avant cette demi. On est obligé de gagner des matchs pour être en confiance. Je crois que le week-end dernier, on était vraiment obligé de gagner face à Warrington pour être bien mentalement, bien physiquement. Après, c'est vrai que c'est un petit peu notre dernière chance, cette demi. C'est ce qui nous reste. Donc, je pense que c'est vrai qu'on met peut-être un petit peu de que ce soit les blessés ou quoi, peut-être c'est vrai qu'on les préserve vraiment pour cette occasion-là, pour ce match-là.
Donc, tu dis qu'il faut engranger de la confiance, mais est-ce que alors il faut prendre en considération ce que tu dis, c'est-à-dire que donc, contre Bradford dimanche, il y aura l'équipe type, de manière à peaufiner les automatismes, ou alors bon, il y aura une équipe bis de façon à laisser récupérer les gars, être prêt pour le jour J.
Je sais pas du tout encore. Je sais pas du tout l'équipe, donc. Mais je sais que.
Aujourd'hui, la question c'est aujourd'hui, est-ce que les blessés ou ceux qui étaient blessés s'entraînent ? Est-ce qu'ils ont envie de réintégrer le groupe ? Est-ce que l'entraîneur va leur faire intégrer le groupe ? Parce que si j'ai bien compris, Greenfield.
T'es blessé, ouais.
Grinche était à passer des radios encore. Ouais, alors qu'il m'avait dit le week-end avant qu'il était prêt. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on va pas le garder jusqu'à Warrington? Voilà.
Après, il faut demander
à l'entraîneur, mais bon.
Au kiné, au docteur et après à l'entraîneur. Je sais qu'il s'est fait une petite déchirure. Après, comment il va? Ça va mieux? Ouais. Est-ce qu'il va jouer ce week-end? J'en sais rien du tout. Est-ce qu'il jouera la demi?
Normalement, avec vous.
Il court. Normalement, non, mais il court à côté. Ouais. Avec le préparateur.
Donc, il ne jouera pas. Ils ne prendront pas le risque de le faire jouer. Mais
donc, il est logique qu'à 10 jours d'une demi-finale de Cup, qu'on ne prenne pas le moindre risque avec les joueurs. Enfin, je ne sais pas, moi.
On a bien compris.
Il faut voir pour Fef aussi.
Hervé Guiraud est parmi nous, vous le savez. On n'a pas encore entendu. Hervé, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bon, je ne peux pas m'exprimer puisque je n'étais pas au match. Non. Par contre, j'aimerais avoir l'avis d'Hervé Girette, journaliste qui était au match, donc qui puisse un peu nous parler de ce match, Hervé. Parce que tu n'as encore rien dit aussi. Les deux Hervé, aujourd'hui, nous sommes deux garçons très timides.
Non, mais je crois qu'on l'a dit et que ça fait l'unanimité. Il y a une équipe qui s'est transcendée sur ce match-là. Est-ce que parce que c'était Warrington, le futur adversaire en Cup, probablement ? Est-ce que parce que l'échéance arrive vite maintenant, je pense qu'il y a eu zéro faute sur ce match, peut-être quelques manquements en défense, mais bon, parce que l'équipe a beaucoup joué aussi, donc on demande aux Dragons de jouer, de prendre des risques, après il ne faut pas leur reprocher de commettre quelques erreurs. Moi je voulais quand même demander à Thomas si, quels que soient les joueurs sur le terrain dimanche, est-ce que d'après lui il faut jouer ce match contre Bradford à fond, justement dans l'optique de la semaine qui suit.
Ah oui, tout à fait. Il faut vraiment le jouer à fond, même si l'équipe peut-être sera pas la même qu'en demi. Je pense qu'il faut vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment engendrer le maximum de confiance pour cette demi. Donc à fond, oui.
À noter, chose importante, aujourd'hui sur Facebook, vous connaissez le fameux Paul Le Poulpe, qui a donc été interrogé et qui a donné victoire des Dragons contre Warrington. C'est officiel, oui, monsieur Vergès. Il s'est jamais trompé, monsieur Le Poulpe.
On a le
Poulpe.
On a
vous sur vos
on a le Poulpe à gagner.
Le Poulpe ne s'est jamais trompé.
J'ai jamais fait le Poulpe.
Oui, c'était trompé la semaine dernière.
Oui.
Publiquement,
il a dit que les Dragons prendraient 50.
J'étais pas là.
On te demandait, Thomas, si vous alliez faire à l'impasse. Donc, je ne pense pas qu'à ce sport, on puisse faire à l'impasse. Hein. Ça, c'est normal hein, quand on est sport de haut niveau, de joueurs de haut niveau. Les impasses, on ne connaît pas. Par contre, Warrington, qui a un gros match aussi ce week-end à jouer. Qu'est-ce que tu en penses, toi de... Est-ce que Warrington va laisser des cadres au repos ou,
Pardon. Non, Warrington rentre 3, Matt King, Cooper et...
Donc, des joueurs qui n'ont pas joué à Mijeral le week-end dernier.
Et Vinny, c'est Louis. Non, Vinny ou Louis,
Louis.
Louis Anderson rentre, ils seront au complet contre Saint-Hélène.
Ouais, donc voilà.
D'accord.
Parce que s'ils voilà perdent contre Saint-Hélène...
Ils se jouent la deuxième... Première, deuxième place.
Ouais. D'accord, ils visent la première et la deuxième place, donc il en faut une victoire.
S'ils perdent samedi contre les Saints reviennent en hauteur au nombre de points.
Ah ok, d'accord. D'accord.
Saint-Hélène est à 2 points de Warrington.
Et troisième à 2 points.
D'ailleurs, le jour du tirage de la coupe, l'entraîneur Smith avait dit pour les Dragons, ils n'ont maintenant qu'un seul véritable objectif, c'est nous, alors que nous, on poursuit d'autres objectifs. Donc, le championnat, pour eux, c'est aussi. C'est la première place qui est en train de se
Le verre vide et le verre plein vont arriver.
J'ai vaguement l'impression que Warrington est très bon, ambitieux, ça on le sait, mais très dangereux parce que c'est une des rares années, du moins depuis 2005, qu'on les voit aussi réguliers dans les performances. Parce que jusqu'à présent, on les a vu chez nous prendre déjà 45 points, c'est déjà arrivé, et manger chaud même à la maison, quoi. Par contre, c'est pas la même équipe, effectivement, donc il y a de grosses intentions.
Qui a été la surprise désagréable du tour de coupe qui s'est fait sortir. Bon, donc voilà, au stade demi-finale, tout est possible.
Moi, je veux revenir un peu sur le match de samedi. Là. Bon, je vais tirer un peu sur les référis. Je pense qu'il y a eu encore quelques petits soucis au niveau de l'arbitrage. Parce que quand on voit les photos sur l'Indépendant le dimanche matin, Castille avec un Morlaix derrière, qui lui met le bras autour du cou, je pense qu'il y a, il y a des preuves à l'appui. Quoi. Et après, sur les essais, je trouve que sur les trois essais, il y en a un au moins de valable. Celui de Stadkoud, je pense qu'il est valable.
Jean-Marie serait peut-être un peu partisan, non ? Je sais pas, mais je sais pas. Enfin, je...
Non, moi j'ai peur pour cette demi-finale que Morlaix essaie de mettre un peu la pagaille. Parce que quand on voit Perpignan que pour durcir, il n'hésite pas à mettre une poire à Simon sur une mêlée et que l'arbitre est à 2 mètres, il ne dit absolument rien. Il méritait d'aller dehors déjà. Et vu les plaquages un peu à retardement, les plaquages hauts, j'ai peur que Morlaix essaie de faire un peu disjoncter nos...
Moi je ne craindrais là-dessus parce que la discipline quand même malgré tout est très sévère en Super League, surtout sur les agressions.
Moi je suis
qui est propre.
Je sais pas si
Louis,
monsieur
moi,
Morlaix
je suis pas d'accord avec toi,
Peacock,
parce que
la... sont arbitrés de la même façon.
Nous nous dit les Dragons ils sont disciplinés, ils vont pas parler à l'arbitre, il y a juste le capitaine. Et quand je vois que Warrington samedi dernier se permettait avec Morlaix et d'autres joueurs en train de parler à l'arbitre et de critiquer, et l'arbitre il dit rien, je trouve qu'il y a deux poids deux mesures.
Non, l'année dernière là, quand on revient à la cravate de Peacock sur Bird, il doit prendre au minimum 10 minutes. LFC cette année il nous casse 4 nez dans l'équipe. Y a rien, y a un petit problème. Je pense que si Ferriol met une cravate comme ça sur un joueur anglais en demi-finale.
Mais quand les joueurs commencent à faire ça, c'est que quelque part on les inquiète, je pense. Il faut continuer comme ça, mais je pense qu'on gagnera la demi-finale. Et on pense que s'il fonctionne comme ça, il n'y a pas de souci. On ira au bout et même
ce soir on réserve les billets d'avion.
Et je m'appelle
pas Paul. Tu es parisien d'origine.
Mon ami Pierrot Vergès. Si on en met le poulpe dans ses 14 ans.
Ah bon, à 14 ans,
tu es sur le poulpe. Ah non, Pierre, laisse-le. À la planche, le poulpe. Stéphane, toi qui as un œil différent du nôtre, parce que nous sommes très partisans, tu es sûrement un peu moins que nous. Et puis un parisien partisan, c'est un peu antinomique, non ? Je sais pas, ça existe.
Alors, merci de me donner la parole.
Donc, Stéphane,
j'ai vu les deux matchs contre les Crusaders et contre Warrington. J'ai vu deux équipes complètement différentes. Contre les Crusaders, je suis resté un peu hébété parce que je reconnaissais pas les Dragons. C'était le premier match que je voyais de l'année, mais j'en ai vu depuis 4-5 ans que je suis les Dragons. J'avais vu autre chose, hein, et j'étais surpris et de manière négative. Vous avez rectifié le tir contre Warrington où là vous avez produit du jeu. Alors forcément, il y a eu ils ont répondu coup sur coup, hein. Vous mettiez un essai, ils en mettaient un. Mais franchement, vous avez produit du jeu et vous avez prouvé que c'était que vous aviez les moyens de faire largement aussi bien qu'eux, quoi, que vous aviez votre place. Le match était plaisant à voir, ça partait lancé, il y avait des chaînes bien menées, c'était cohérent. Je me suis régalé. Alors que contre Crusader, j'ai trouvé tout le monde un peu lymphatique. Je sais pas, ou peut-être la chaleur, je sais pas. Peut-être.
Alors c'est pour les deux, de toute façon.
Hein,
la chaleur, c'est pour les deux équipes.
Justement, Thomas, au bout de 20 minutes, on a senti les deux équipes baisser un peu de baisse. C'était dû à cette chaleur, parce que peut-être Warrington davantage que vous, mais on a senti les équipes quand même baisser de pied au bout de 20 minutes.
C'est, hein. c'est vrai que c'est dur avec cette chaleur de jouer. Même si on joue le soir, il fait quand même entre 25 et 30 degrés, donc la chaleur pèse surtout sur les jambes. Et après, c'est vrai que cette fin de mi-temps, enfin ces fins de mi-temps sont très très dures. Ouais.
Bon, messieurs dames, nous arrivons.
Un petit mot, dernier mot à Thomas, parce que moi j'estime que Thomas a fait un très très bon match. Avec une bonne personnalité, et il a pris le jeu à son compte. Il faut qu'il continue comme ça, qu'il n'hésite pas à prendre des risques, parce que bon, l'entraîneur, c'est vrai qu'il propose des schémas, mais à un moment qu'il y a quelque chose à jouer, il faut le tenter comme tu l'as fait cette semaine. C'était magnifique, je te félicite.
Merci.
Thomas, une petite question. Par rapport à cette chaleur, justement, il y a une préparation spécifique à avoir? Vous vous entraînez en plein soleil
Non, pas trop quand même.
Non, pas trop.
On essaie d'éviter parce que c'est vrai que ça pèse toute la semaine si on s'entraîne avec cette chaleur. Après, ouais. On arrive le week-end et on risque d'être cuit vraiment physiquement. On s'entraîne assez tôt le matin sur les coups de 8 heures.
Ouais.
Il fait quand même.
Ouais, ça tape déjà.
C'est déjà pas mal. Et vu que quand on finit à 9h30, 10h, ça tape vraiment beaucoup.
Ouais.
Et après, l'après-midi, pareil, on s'entraîne demain après-midi, on s'entraîne à 5 heures. Donc à 5 heures, c'est vrai qu'il fait quand même assez chaud encore.
Encore, ouais. D'accord.
Bon, messieurs, dames, demi-heure d'émission, déjà, ça passe très vite.
Merci.
Et comme de coutume, après demi-heure d'émission, nous passons aux questions. Et notre chef des questions,
alors,
c'est
les
René.
Questions. Bon, la première, elle s'adresse à Thomas, bien évidemment. Alors, on lui pose la question, alors je ne sais plus de qui elle vient. Alors, je ne sais plus. Ah, voilà, de sécateur. Il aime faire les vendanges.
Alors, le pseudo.
C'est joli. Alors, il te demande si tu évolues dans les meilleures conditions. Et si les infrastructures du club ne manquent pas trop, justement pour évoluer aux meilleures conditions, voilà. C'est la question qui se pose. Ouais. Est-ce qu'il vous manque quelque chose pour
évoluer ? Non, pas du tout, vraiment pas. Je crois que le club fait beaucoup d'efforts sur tout ce qui est extra-sportif, enfin, pour chouchouter un petit peu les joueurs, avec les kinés, docteurs, masseurs... on a deux kinés quasiment à temps plein, donc tout va bien. On a la piscine à Brutus qui est maintenant sur place, donc on a vraiment tout sur place.
Vous en servez de la piscine?
Oui, ouais, on s'en sert.
Non, parce qu'on a tellement critiqué, on a tellement crié. Si vous en servez.
On en connaît. Hein.
On s'en sert. Quasiment toutes les semaines.
Et des séances de, parce qu'elles ont été un peu décriées, ces séances de musculation, là.
Sans musique.
Alors, vous êtes où aujourd'hui? Parce que bon, on sait que ça fracassait pas mal de tes collègues.
Mais là, cette semaine, on l'a.
Ah, bah.
Et la musique gagne. La musique fume.
Quand il y a la gagne, la musique derrière.
La musique fume, ça y est. Elle est retour.
Thomas. C'est vrai que, ouais, c'est quelque chose qu'on a demandé depuis le début, mais malheureusement, le préparateur physique n'est pas de cet avis-là. Et donc après c'est lui le chef, donc on doit faire avec.
Voilà, alors une autre petite question de Carcassonne qui s'appelle Astrésix. Alors c'est un petit exercice d'autocritique, je te reconnais que c'est pas facile, j'aimerais pas le faire. Hein. Thomas, décris-nous Thomas Bosque, le joueur de 13, ses qualités, ses défauts, technique, moi je lui pose la question, tactique, il répond, c'est immoral. Et ce qui l'amène au groupe et sur quel point il doit encore s'améliorer, voilà sa question, voilà.
Qu'est-ce vous allez le faire alors. Ce sera plus facile.
Bon, allez. Autre chose. Bon, elle était pour Greg.
Par contre, moi, je vais rajouter sur Thomas, c'est que le fait quand même de ce haut niveau, il est beaucoup moins timide et ça se voit sur le terrain quand même. Ça, c'est hyper important.
Autour de la table aussi, ça se voit. Hein.
Autour de la table aussi, ça se voit. Autour de la table, parce que je suis surpris aussi. Je suis surpris par Thomas. Parce qu'on me parlait de sa timidité, mais ce soir, ben, je vois un grand.
Il a eu 3 bières aussi. Hein,
Non, pas du tout. Nous, on en est à 3 bières. Par contre, il a bu de l'eau.
Et tu as vu comment il zappe les questions qui ne l'intéressent pas. Hein.
Et quand il attaque la ligne comme samedi dernier, il est surtout pas timide.
Voilà, voilà. C'est bien.
Alors, laisse-le finir sa cigarette déjà, tranquille. Et puis après, on passe à la question.
Alors, il y avait une question pour Greg, on va te la poser à toi. Ah, si on te donnait carte blanche, ça c'est important parce que tous les supporters attendent aussi ce genre de questions, pour recruter un joueur pour la saison prochaine, quel poste et quel profil surtout est-ce que tu prendrais un avant, est-ce que tu prendrais un demi, parce qu'on ne sait pas très bien si Sherwin va rester. Si,
ouais, voilà, voilà. C'est là, voilà. Là est la question.
On a appris aussi que... Bon, que certains... Ouais,
j'avais parlé un petit peu avec Brent Sherwin, lui qui voulait vraiment rester. Oui. Donc c'est vrai que moi je m'entends bien avec lui, donc pourquoi pas.
Ouais.
Je pense que c'est un super mec. Ouais. Après un poste vraiment clé, si
Maguire va partir,
si Kazem Maguire s'en va, je pense qu'il faudrait vraiment un talonneur et un pilier, un gros pilier. Ouais.
Voilà, très bien.
Alors un centre. Et pas un
ailier. Ouais, alors j'ai d'autres questions, mais alors, vous voulez qu'on continue ?
On y est.
Allez, on continue. Alors, j'ai d'autres questions qui vont s'adresser à Monsieur Guiraud.
Ah, le Stade français.
Voilà, le Stade français. Non, on va parler du Stade français. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît, à Monsieur Guiraud. Là. Donnez-lui. Alors. Ouais. Alors,
voilà une bonne question.
La question que Courbière te pose, et la fédération surtout, hein. C'est de Vichy, voilà. Qu'en pense la de Vichy, on parle de Vichy.
Oh, elle est partie.
Voilà, Vichy. Pense-t-elle intenter un jour une action ? Et si oui, si elle ne veut rien faire, pourquoi ? J'aimerais une réponse claire et précise. Allez, débrouille-toi avec ça.
Facile, hein.
Débrouille-toi avec
facile,
ça.
Les bonnes questions, elles sont toujours pour moi. Bon, c'est l'ami Corbière qui...
Oui.
Bon, je crois que Vichy, tout le monde en a parlé depuis longtemps. Je crois que chaque trésiste a...
Et les plus jeunes ont pouffé autour de cette table. Hein.
Voilà, bon. Je crois que nous tous avons un devoir de mémoire avec Vichy. On sait très bien ce qui s'est passé. Mais bon, écoutez, je crois qu'on est quand même en 2010. Il y a eu des actions, il y a eu des études, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur Vichy. Marie-Georges Buffet, la ministre à l'époque, s'était penchée dessus. Moi, je veux bien croire qu'au moment de Vichy, nous étions milliardaires, millionnaires, mais ça n'a jamais été prouvé. Je n'ai pas souvenance, je n'ai pas trouvé d'archives, je n'ai pas trouvé d'anciens dire que nous étions des milliardaires. Alors, vous savez, le sujet est très très lourd. Je pense que c'est surtout la façon ce qui a été fait à notre sport. Mais bon, je crois que maintenant, on est en 2010, que la Fédé actuellement de nouveau se retourne d'ailleurs contre qui ? Contre notre gouvernement, qui est quand même notre premier partenaire financier, partenaire sportif. Donc je crois que au bout d'un moment il faut arrêter avec ça.
Voilà, donc on enterre Vichy, on n'en parle plus. Du côté de la fédération,
peut-être peut-être que les prochains qui arriveront à la fédération voudront peut-être de nouveau remuer les cendres, essayer de faire quelque chose. Bon, mais écoutez, ouais. Ça fait partie. Allez. On va pas toujours. Il faut penser au passé. Mais on va pas vivre toujours avec le passé. Hein.
Alors, une autre question de Taroux
Eric, Corbière,
qui est d'Albi. Hein.
Oui. Alors, qui est d'Albi, pourquoi a fait l'effort de venir les Dragons voir les Dragons à Barcelone?
Oui, ce monsieur Taroux, c'est vrai, tu as raison. Et d'ailleurs, il était là.
Je m'en souviens parce qu'il nous avait offert une bouteille de Ricard.
Il commente sur une radio rugby internet. Alors, pourquoi la Fédé n'a pas osé Narbonne ou Nîmes ou même Agen pour organiser l'Extra Game, mais enfin, je suppose que c'est le match
Ozon.
Voilà, Ozon, dans une volonté d'expansion. Alors, pourquoi se rabattre sur Lézignan ?
Alors, écoutez, l'expansion, je crois que quand il le faut, la fédération fait de l'expansion. Là, c'est l'histoire de regrouper tous nos clubs de la LER. Lézignan est le champion de France. C'est le meilleur public actuellement trésiste qui se réunit, qui se retrouve à tous les événements. Et je pense qu'il était logique de faire justement vis-à-vis de ce titre et de tout cet engouement dans une région de faire cette présentation des clubs de la LER à Lézignan. Puis, je crois qu'il ne faut pas oublier quand même les choses, c'est qu'on ne vit pas en France dans un monde toujours facile au domaine du sport.
et aller trouver une municipalité qui vous laisse un stade pour 5 matchs en 2 jours, donc 3 matchs sur la même pelouse sur un terrain d'honneur, c'est très très difficile. Quand on voit qu'encore la semaine dernière à Aimé-Giral, pourtant on dit la ville de rugby, que nos roosters n'ont pas pu trouver de vestiaire et qu'il faut aller se déshabiller dans un stade à 1,5 km avec location de car et tout, donc c'est facile de parler de tout cela autour d'une table, mais après il y a la réalité du terrain. Et bon, et justement Lézignan, on a la chance d'avoir un maire, un ancien trésiste, Michel Maïc, qui nous met toujours à disposition ses installations et son stade. Et puis je vous dis, puis il y a cet engouement, ce titre, donc au bout d'un moment, gloire et honneur au club champion de France. Je crois qu'il le mérite, que le public lézignanais mérite de participer à cette fête.
Une question différente, mais toujours pour toi, Hervé. L'audience de France-Angleterre sur Direct 8.
Vous savez que lorsqu'il y a des engagements financiers, bon, j'aime pas trop en parler, mais bon, je peux vous dire que l'audimat a été très 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 mauvais. Très très mauvais. Donc je crois que c'est à nous tous et trésistes de nous prendre en main, d'arrêter de rêver, d'arrêter de parler de grandes chaînes nationales, internationales. Au bout d'un moment, là pourtant c'est une chaîne ouverte à tout le monde, donc il faut avoir le sens de la réalité, se dire qu'au bout d'un moment, peut-être qu'au-dessus de la Loire, dans le Nord, c'est pas toujours facile d'allumer la télé et de regarder un match de rugby à 13.
Est-ce que tu as des chiffres par contre, les statistiques? Voilà.
J'ai les chiffres, c'est très très mauvais.
Non, on les donnera pas. Alors, pas
je peux vous les donner. Écoute, enfin,
oui,
il faut savoir que là on va jouer gros avec la Coupe d'Europe. C'est une chaîne ouverte à tout public, donc cette chaîne est en droit d'attendre beaucoup d'audimat. Justement, elle en reçoit avec d'autres sports, avec d'autres événements. Et là, l'événement, on est complètement passé à côté.
Ouais, les chiffres, Hervé.
Je vais vous dire, c'est 50 000 personnes, dont ça représente une chaîne câblée sur Sport Plus. Alors que vous avez un match féminine de notre sport qui a fait 800 000, 1 million d'audimat.
Ouais, je l'ai vu.
Donc, voilà. Donc, je crois qu'il faut arrêter de faire de grandes tirades, de grandes théories. La fédération va où il faut. On s'est rencontré les personnes sur la 1, sur la 2, sur la 3. Mais au bout d'un moment, il faut avoir la réalité de ce que représente notre mouvement et arrêtons de rêver.
Est-ce que tu penses pas que ça peut s'inscrire sur la durée? Je veux dire, bon, oui, sortir les chiffres sur un match alors que personne ne connaît le rugby à 13. Je suis désolé pour mon voisin parisien. J'ai le père d'un enfant qui était au camp des Dragons qui a voulu inscrire le gamin. Il savait même pas qu'il y avait du rugby à 13 à Paris, quoi.
Tout à fait.
Il m'a dit, il joue à 15, il s'est régalé, mais on voudrait bien qu'il joue à 13, mais on vit pas dans le sud. Je dis, mais t'as 4 ou 5 écoles de rugby à Paris.
C'est vrai qu'il y a tout un travail de communicationnaire. Bon, Direct 8 nous a mis à disposition ces journaux gratuits qui sont distribués dans les plus grandes villes françaises. Bon, c'est vrai que il y a eu toute la semaine de la présentation, mais bon, au bout d'un moment, il y a quand même notre vivier qui manque d'effet. Et c'est vrai que voilà, c'est un travail de longue haleine. Il faut présenter notre mouvement. Bon, on pense qu'avec la Coupe d'Europe, choses vont s'arranger. Bon, il y a toujours là aussi. Bon, il y a toujours de la concurrence, mais bon, là les résultats sont là.
Ouais, mais la spécificité de la télé, c'est valable pour la pub, c'est valable pour ce qu'on appelle le matraquage. C'est que plus on voit quelque chose, plus on a envie de le voir. Hein. Ça, c'est une réalité.
Moi, je pense que même au niveau de l'équipe de France, comme de la fédération, comme des Dragons, là où le bas blesse, c'est la communication, malheureusement. Il n'y a rien qui se fait.
Parlons de communication. Bon, dire qu'il n'y a rien qui se fait, je ne suis pas d'accord, puisque quand même notre groupe de communication, c'est quand même IMG qui s'occupe du sport en Australie, en Super League, et qui s'occupe aussi de notre sport en France. Mais voilà, donc IMG, lorsqu'ils vont rencontrer des partenaires, chercher des futurs partenaires potentiels, bon, au bout d'un moment, on leur parle
de l'extérieur, à l'occurrence IMG comme tu parles, ils connaissent personne, c'est pas des gens du terrain, c'est pas des gens du terroir. Je pense qu'en communication, malheureusement, comme c'est un petit sport le nôtre, c'est des gens du terroir qui doivent communiquer, qui soient du métier, qui savent communiquer.
Hervé, au niveau de la com, puisque tu parles de ça, moi je reviens là-dessus justement.
lors du match France-Kiwi à Toulouse pour le Four Nations.
Oui.
Alors, j'ai ouï dire par quelqu'un de la fédération qui était bien placé qu'il n'y avait eu, en termes de communication, que les affiches posées dans des cafés. Et pas une sucette, pas des 4
par 3 à Toulouse.
Ouais, alors là justement, est-ce qu'on peut Toulouse, continuer à vouloir exister
bon,
à,
c'est pas le bon exemple, puisque Toulouse, c'est le record, je crois, des 15 ou 20 dernières années au niveau du public. Nous, il y a eu une grosse campagne de communication avec notre partenaire, les mutuelles du Rempart.
Sous quelle forme la communication a été faite?
Qui ont invité tous leurs partenaires, qui ont écrit à tous leurs adhérents, et à la sortie... Il y a eu le succès escompté au niveau invitation.
Parce qu'il n'y a pas moyen d'investir au niveau des affiches, l'affichage, c'est quand même.
Vous savez, l'affichage, quoi. Bon, moi, j'y crois, je sais ce que ça coûte très cher. On a vu à la finale à Avignon, on a fait une grosse campagne d'affichage sur Avignon et sur la PACA. Bon, au niveau de l'alerte, ça n'a pas été un grand succès aussi. Donc, je veux dire, c'est vrai que c'est toute cette, comment dirais-je, tout ce regroupement de moyens. Mais bon, une sucette, il faut les voir. Une 4 par 3, bon, c'est pas forcément ce qui va vous faire venir un match. On sait qu'il y a un match, mais bon, je crois que c'est un tout, hein, la communication. C'est pas facile.
Ouais, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la communication. Faut aussi savoir que les gens. Je parlais de l'Île-de-France. Hein. Deux matchs internationaux ont été organisés, hein, France-Angleterre à Jean-Moin, France-Australie à Charletti. À Jean-Moin, c'était pratiquement plein. Ça fait grosso modo 15 000 personnes. Tous les présidents de la région parisienne étaient là, mais ça n'a pas rempli le stade. Hein. Plein de gens étaient au courant. Bon, il y avait des provinciaux qui sont montés de province, mais il y avait aussi beaucoup de quinzistes intéressés. Et ça a rempli le stade. À Charletti, il y avait entre 7 et 8 000 spectateurs, je pense. On a fait plus hein, à Charletti quand il y avait le PSG. Hein, les premiers matchs, il y avait, c'était plein. Et il n'y avait pas une communication extraordinaire non plus. Hein. Ça se sait. À un moment donné, ça se sait. Les gens qui veulent réellement savoir, ils savent où aller chercher l'information.
Le PSG, tu avais quand même joint l'équipe qui les suivait de près avec une couverture assez importante.
Il en revient à ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Il en revient à ce que j'ai dit il y a 2 minutes. C'était la bonne personne à l'époque du PSG qui était en place pour faire la communication.
Ben là, pour revenir au match parisien, quand même, bon, il faut savoir que c'est quand même les mêmes personnes qui se sont occupées de la communication à Jean-Bouin et à Charletti, puisqu'on s'est fortement appuyé sur le stade français, avec qui on travaillait très bien. Pour le match à Charletti, on a fait une grosse campagne dans le métro sur les grosses lignes, qui coûte très 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 cher, et à la sortie, bon, les gens n'étaient pas là. Alors bon, c'est pas une science exacte, hein.
7 000 personnes. Elle a oublié Fabienne bien, à la porte. Elle a chose à nous dire, Fabienne.
Non, moi, je trouve inadmissible, surtout qu'il y ait une équipe de France de rugby à 13 qui porte le maillot de l'équipe de France. Et que dans les médias, à Sport 8 Direct, j'avais écouté les émissions, je leur envoyais un mail en disant que c'était de la discrimination et c'était pas dans l'éthique du journalistique de au moins de donner le score et de savoir qu'il y avait quand même une équipe de France qui se battait pour leur pays, dans un pays étranger, contre les Anglais, même s'ils avaient perdu. À l'époque, les quinzistes avaient perdu aussi ce match. Hein, et j'ai trouvé ça quand même lamentable. Voilà, c'est tout. Je pense qu'au niveau journalistique, ils doivent donner des informations.
Tout à fait.
Hein, donc, je veux dire que c'est pas quelque chose...
Fabienne, la presse a changé. Hein.
Ouais, mais enfin,
Avant la presse informée, aujourd'hui, la presse, elle va dans le sens de ce que veulent les gens pour vendre du papier. Ça a changé, hein, c'est plus pareil.
Hein.
C'est
Hervé
qui nous contredira. Il y a très très peu de vraies presse.
Je pense aussi que quand tu vois des matchs comme on a vu samedi, où il y a beaucoup de médias qui ont peur de voir le 13, parce que c'est un gros spectacle. Et que les gens, quand ils le voient pour la première fois, moi j'avais 6 personnes qui étaient invitées samedi au match, ils n'avaient jamais vu de match à 13. Et quand ils ont vu ça, ils en sont restés, mais baba, ils m'ont dit, moi, des matchs comme ça, moi je retourne. Et ils prendront leur carte l'année prochaine, parce que et s'ils vont en finale, ils prendront leur place pour aller à Wembley. Ils n'avaient jamais vu un match à 13 et ils se sont régalés. Ils me disent c'est dommage qu'au niveau des médias, on ne le sache pas.
Les gens se régalent. Et lorsque vous amenez quelqu'un qui ne connaît pas le rugby à 13, il ressort, il est enchanté. Hein, ça, c'est certain. Hein, chaque fois qu'on a invité des personnes à aller à Wembley, aller voir là. Mais il faut, bon, lorsque vous allez voir un directeur d'antenne français, que vous lui présentez le championnat des Dragons,
il vous dit, moi le championnat des Dragons, c'est pas, moi ce qui m'intéresse, c'est les Bleus, c'est votre équipe de France. Ce n'est pas les Dragons, c'est un champion, c'est européen, donc on ne peut pas faire, je pense que Louis là me contredira pas, Orange ou Canal Plus ne va pas faire un feuilleton sur.
Quand vous voyez au niveau de la Fédé des gens qui travaillent pour France 2, pour Stade 2, donc on voit jamais une émission, on voit jamais un reportage sur les Dragons, alors que c'est avec le français.
Mais oui, mais justement, lorsque vous allez les voir, bon, vous êtes toujours bien reçus, mais ils vous remettent toujours l'audimat sur le nez. Vous allez voir la direction de l'équipe, et nous allons les voir souvent, ils vous disent, bon, votre championnat a l'air, bon, on va mettre les résultats, mais vous n'aurez qu'un petit bandeau. Moi, ce qui m'intéresse, bon, ça a été bien couvert, ça a été le Four Nations. Pourquoi ? Parce que c'est une compétition internationale. Ça nous plaît. On peut comparer avec les autres sports, d'accord. Mais ne me parlez pas des matchs de l'air. On va mettre les résultats, on va faire le string minimum. Et...
Non, mais le peu qu'ils font sur nous, je me rappelle de Lionel Chamoulot au Stade 2. Il y avait eu un reportage sur la finale des Dragons à Wembley. Il commence son reportage par les Dragons sont morts à Wembley. Non, je suis désolé. Là, il mérite une gifle, là, parce que les Dragons ne sont pas morts à Wembley. Les Dragons sont nés à Wembley.
Ça, c'est
il
ne
faut pas se permettre de dire ça devant la France entière, parce que le c'est gars qui ne connaît pas le rugby à 13, ils vont dire les Dragons sont morts. Ouais,
enfin, je pense qu'on ne s'est pas aperçu tous que maintenant la presse, les médias, c'est tout devenu du showbiz.
Mais bien sûr.
Quand tu ne peux pas inviter les gens,
aller
à droite, à gauche, ça ne pas, on ne
est
pas loin, à côté de Barcelone, on aurait dit que c'était Perpignan qui avait gagné la Coupe d'Europe.
Et Stade 2, c'est
du football. Ils ont foutu 4 plages de ceux indépendants de Barcelone, il n'y a rien sur les Dragons.
Regarde, je vais prendre un exemple. Carcassonne a fêté ses 70 ans il y a 5-6 mois. Ils ont fait une grande fête. On a invité justement pour présenter la soirée le journaliste vedette sportif d'Antenne 2, Carcassonne avait invité, et le journaliste sportif, le directeur de Canal+. Ils sont venus, ils ont fait leur ménage, comme on dit, ils ont fait leur soirée, très professionnelle, très bien, mais après, derrière, quelles sont les retombées? Rien, pas un mot, pas une ligne.
Pourquoi voilà, aujourd'hui, c'est tout. Hervé, pourquoi aujourd'hui on ne retrouve pas les paris en ligne? Tiens, aujourd'hui, ça a explosé les paris en ligne, puisque... Je crois qu'on a passé une loi qui va nous permettre à nos Français de... Aujourd'hui, on trouve ni la SL, ni la Super League, ni la NRL. On ne retrouve rien sur les parrainiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, j'ai vu que le groupe Casino, Joie Casino, a signé avec notre
Chris Casino.
Ouais, voilà. Notre équipe amie de l'USAP. Et nous, alors, la Fédération Internationale, est-ce qu'ils ont décidé de faire quelque chose? Est-ce que vous avez décidé quelque chose? On ne peut pas parier sur du 13 en ligne, voilà, tout bêtement.
Alors, en Angleterre, un peu, en Australie, un peu.
Chez nous, pas en France. Bon, voilà, alors, attendez, moi je voulais poser une question à Louis, parce qu'on va rebondir un peu sur la télévision. Voilà. On va rebondir avec Louis, parce que...
On a aussi la malchance, la chance, nous, dans l'absolu, mais... d'être dans le sud de la France, dans le sud profond de la France.
Comme les chanceux.
Donc, géographiquement, je crois que pour attirer les Parisiens, c'est un peu compliqué, quoi.
Bah, d'accord, très bien. Alors, on va parler, Louis, d'Orange.
Il faut gagner la finale à Wembley. Peut-être on parlera de nous.
Et encore.
Je pense que oui. Parce que quand on est allé à Wembley, souvenez-vous,
que Dieu t'entende.
Ils en avaient parlé. Il faut être honnête.
On va parler.
Attends, c'est bien derrière, on peut travailler dans la continuité.
Je vais te donner la parole. On va parler de Orange. On va parler de Orange. Bon, mais d'abord, laisse-moi te poser la question. Tu en feras ce que tu voudras. Tu tapes en touche si tu veux. Voilà. Est-ce qu'on pourra voir la Cup sur Orange? Alors, ça intéresse tout le monde, surtout ceux qui sont loin. Non.
A priori, non. Parce qu'il y a deux. Non, c'est pas parce qu'il y a du foot. C'est que moi, je me suis préoccupé de l'activité rugby à 13. Et lorsque j'ai parlé avec Nicolas, et qui est maintenant devenu directeur de la rubrique foot et rugby 13 compris, à Orange, bon, il y a quand même sur le marché de la télévision française disponible les droits des State of Origin et de la Coupe d'Angleterre. Donc moi j'estime que ces deux compétitions de rugby à 13, c'est quand même des choses qui doivent être montrés au monde entier, puisque le monde entier les regarde.
Et le seul pays où on les a vus à un moment donné, c'était quand même avec AB Sport, c'était avec Pathé Sport, c'était avec Sport Plus, où chaque année, nous avions quand même, peut-être avec quelques jours de retard pour des questions de droit, mais nous avions quand même les deux compétitions que le monde entier regarde en rugby à 13, c'est les State of Origin et la Coupe d'Angleterre, plus la finale de NRL. Bon, donc ces choses étant disponibles sur le marché, pour le moment, pour des raisons budgétaires, des raisons de choix rédactionnels, dans la mesure où Orange détient les droits du rugby à 13 français, bon, pour l'instant, ce n'est pas dans leur stratégie ni dans leur projet financier de récupérer les droits existants libres en France de la Coupe d'Angleterre et des State of Origin. Par contre, je n'exclus pas la possibilité personnellement que si les Dragons étaient à Wembley, il puisse y avoir peut-être un extra qui ferait qu'un événement comme ça soit porté à la connaissance. Mais ça, c'est lié au résultat aussi des Dragons. Donc, c'est tout ce que je peux dire et je ne suis pas du tout décideur.
Oui, malgré tout ce que tu viens de dire, on en revient un peu à la communication sur les Dragons. Il est quand même triste qu'une équipe française, les Dragons catalans, soit en demi-finale de la plus grande compétition européenne de rugby.
Je suis d'accord avec toi.
Et qu'on ne soit pas foutu d'avoir une demi-finale qui passe en direct sans aller la voir sur la BBC.
Oui.
Avec une parabole,
oui, mais alors,
avec un abonnement.
C'est triste quand même. Moi, je vais te dire, c'est triste aussi, mais lorsque vous parlez là, j'ai malheureusement la comparaison avec un autre produit qui n'est pas le rugby à 13, qui est la blanquette de Limoux. La blanquette de Limoux, lorsque vous la faites déguster à tout le monde, personne ne vous dit que c'est pas un bon produit. Tout le monde vous dit que c'est un produit excellent, mais personne n'en achète et personne n'en boit, à part à Limoux. Voilà, donc le rugby à 13, c'est pareil, c'est un excellent. La blanquette de Limoux est sponsor des Dragons, à toutes les réceptions d'avant et d'après-match, il n'y a pas un club qui, dans ses bars, propose la blanquette de Limoux, alors qu'ils sont officiellement sponsors des Dragons. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait l'aller-retour dans les échanges de services. Et lorsque on parle de télévision, on est en train de crier tout le temps pour ceux qui ne parlent pas de nous, mais moi j'aimerais quand même qu'on soutienne aussi de temps en temps d'une manière officielle, même si on trouve que c'est pas bien, ceux qui parlent de nous. On est toujours en train de parler de ceux qui parlent pas de nous. Ouais. Moi, parlons d'abord de ceux qui parlent de nous. D'accord, mais voilà. Par contre, Louis, quand tu dis de ceux qui parlent de nous, on parle de télé. Mais actuellement, au niveau de la presse départementale, c'est une honte. On est à 10 jours d'une demi-finale de la Cup. Il n'y a rien sur la presse. C'est grave. Ça devient grave. La seule photo qu'on voit après une grosse performance des Dragons contre Warrington, on voit une photo en noir et blanc, mais c'est une honte. À l'époque où on vit, nous montrer une photo en noir et blanc sur l'Indépendant.
Et j'ai le souvenir du match aller où les Dragons perdent 46 à Warrington, où ils sont derniers ce jour-là. On fait la première page de l'Indépendant couleur, avait marqué dernier en gros. Là, on y a eu droit à la première page. Écoutez, alors, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent nous enterrer.
On le sait. De toute façon, c'est
mais nous, il faudrait qu'on se bouge.
La question, c'est pas normal. Je pense que le phénomène, il est quand même aussi lié à nous. Bon, moi, quand j'entends Pierre Vergès qui me dit qu'un père de Paris veut faire du rugby à 13 et qu'à Paris, il ne sait pas qu'il y a du rugby à 13, c'est que ce parent ne s'est pas informé. Parce que c'est pas normal. Aujourd'hui,
le camp des Dragons, il a trouvé quand même. Donc, s'il a pas trouvé les écoles de rugby à Paris, c'est pas un problème.
Aujourd'hui, il y a ceux qui savent que le rugby à 13 existe, et ceux qui ne veulent pas en parler. Ça, c'est une chose réelle. Il y a ceux qui savent que ça existe et qui veulent surtout pas en parler. Donc, c'est une stratégie délibérée. Il y a ceux qui savent pas. Bon, on peut les excuser. Et il y a ceux qui cherchent pas du tout. Et il y a les 13istes aussi qui font pas 3 mètres pour aller soutenir le club voisin. Ça aussi, parce que la finale, nous, on est en train toujours de calculer la finale du championnat, qui va être en finale parce qu'ils ont un public. Si c'est une autre équipe, il n'y aura personne. Est-ce qu'on s'occupe à Wembley? Qui va aller à Wembley? On va à Wembley. On s'occupe pas si c'est Wigan, Saint-Hélène, Bradford, etc. On va à Wembley. Non, c'est pas vrai. À 5000 personnes près, c'est entre 85 et 85 000. Voilà, chaque année. Donc on s'occupe pas qui est en finale. Et nous, il faudrait qu'on arrête aussi de dire, bon, voilà. Moi, je pense qu'il y a des problèmes quand même qui nous sont particuliers. Louis, quand je vois des pétitions qui circulent parce qu'on ne parle pas d'ici, parce qu'on ne parle pas de là, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une pétition qui dise on remercie monsieur Untel parce qu'il parle de nous. Voilà, ça, ce serait une pétition qui nous apporterait peut-être quelque chose.
Bon, avant de repartir dans l'univers des Dragons pour les 2 minutes qui nous restent, on a Stéphane avec nous. Stéphane, qui, rappelons-le, est le président du comité de l'Île-de-France de Paris. Alors, Stéphane, peux-tu nous parler un petit peu de l'état de santé, justement, de ton comité?
Eh bien, écoute, c'est pas si mal, puisque bah, déjà mon ancien club, Paris Charenton, a fait la finale du championnat de France de DN2 cette saison, et a fait la demi-finale de la Coupe Falco. Bon, ils ont perdu les deux fois, mais bon, c'est une équipe très jeune. En plus, bon, ils ont plus d'entraîneurs. Ils avaient Didier Wally qui était entraîneur, mais il a été muté dans le midi. Donc, depuis pratiquement le début de saison, ils se gèrent hein, eux-mêmes. Et bah, finalement, ils ont fait du très beau boulot, hein, puisque ils ont fait vraiment des gros gros matchs. La finale du championnat, elle a été perdue parce que quelque part, ils avaient fait leur finale en demi contre Béziers. Hein. Là, ils ont tout donné. Il y a eu pas mal de blessés. Donc, un effectif qui était un peu juste. Après, toutes les écoles de jeunes fonctionnent. Tous les clubs ont des écoles de jeunes. Hein. Alors, je suis combien un peu étonné. Alors, il doit y avoir à peu près 7 écoles de jeunes, je crois, à Paris, plus ou moins actives. Et elles se rencontrent tous les samedis, comme je pense... partout dans les régions françaises où il y a du 13. Donc, ça fonctionne. Bon,
que sur Paris que sur Paris ?
Paris, région parisienne. Hein, toute l'île de France, voilà. Hein, on a quelques carences dans certaines catégories. Les juniors, les cadets, on a un peu de mal. Chez les petits, on est certainement aussi bien lotis que partout. Mais cadets, juniors, on est un peu juste, on y travaille, mais c'est pas facile parce que bon, bah, à Paris, beaucoup de sollicitations. Tous les jeunes gamins vont bah, là où justement ça passe pas mal à la télé, tout ça. Bon, nous on n'est pas tellement représentés, donc ils connaissent pas. Mais ça commence à venir. Hein. Nous on a plein de signes qui nous laissent penser qu'on va s'en sortir et qu'il va arriver à un moment donné, nos équipes en Île-de-France seront uniquement fournies par les jeunes. On va y arriver. On va y arriver, même si... Bon, malheureusement, on a... c'est bien...
Bonne question, bien... est-ce qu'il y a un DTN
fais... Effectivement, René, tu fais bien d'en parler.
Justement, oui. C'est vrai que tu ne m'avais pas entendu. Je me suis retourné. Oui, s'il y avait une DTN...
DTN à Paris, non. Il y a des toubis, ça c'est clair, notamment un, mais ce soir on va s'en passer, on va pas le citer. Ouais. Par contre, on n'a pas de CTR, mais c'est pas grave.
Oui, c'est ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que bon, il y a un potentiel énorme à Paris, on le sait. Un sport aujourd'hui, et pour rebondir aussi par rapport à ce qu'a dit Louis et les autres, un sport aujourd'hui, il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on ait des idées. Ce qui manque à la fédération depuis très longtemps, pas la fédération actuelle, hein, la fédération depuis 40 ans, c'est un manque d'idées. Un jour, il va falloir essayer d'aller dans les voies où on ne veut pas aller. Laisse-moi finir.
Ouais.
Attends. Un sport, il existe. Un sport, il existe. Si les sports olympiques, s'il a des compétitions internationales lisibles, ou alors si c'est un grand sport scolaire. Le hand a réussi à sortir parce qu'il y a eu les bargeaux, parce qu'il y a eu tout ça, mais aussi parce que c'est un sport scolaire. Pour m'occuper d'enfants depuis quelques années, moi j'ai des enfants au Camp des Dragons qui viennent de Luxembourg, qui viennent de Belgique, qui viennent de Suisse, qui viennent de Paris. Et quand ils touchent au rugby à 13, ils demandent partout où ils peuvent jouer. Et ils ne cherchent pas ou ils ne le savent pas. Ça veut dire que si le travail avait été fait depuis 40 ans, plutôt que de nous branler avec Vichy et des conneries comme ça, on avait fait en sorte pour faire rentrer le rugby à 13 à l'école, alors que le Parlement européen a condamné l'État français pour ne pas l'avoir fait rentrer. Si on menait ces combats-là, peut-être qu'on avancerait. Parce qu'un enfant qui va dans une école de rugby, c'est les parents qui regardent la télé, qui lisent les journaux, et on va avancer. Seulement, le travail de fond, personne n'a jamais voulu le faire dans ce sport. Donc, à un moment donné, il faut se regarder en face.
Ouais, c'est moi qu'il faut au Camp des Dragons qu'on vous donne la liste de toutes les écoles de rugby de France. Et à chaque... Eh ben, donc, vous devriez avoir la liste des écoles de Paris. Et à ce père, en partant, il doit partir avec la liste des
écoles. On les a,
parce qu'on reçoit des courriers.
Moi, pour promouvoir le 13 en Belgique et au Luxembourg.
Par contre, tu as oublié quelque chose quand même de très important, parce qu'au hasard d'un repas au centre de la France, je suis tombé sur quelqu'un qui arrivait du rassemblement des anciens de Paris 13. qui regroupe des centaines de personnes tous les deux ans, pas chaque année.
Tu es gentil.
Je répète ce que dit Yannick.
Tous les deux ans.
Tu vois, je suis bien au courant. Ouais. Et ce monsieur m'a dit, mais moi, j'arrive du rassemblement qui était du côté du Pays Basque là-bas.
Cette année, c'était au Pays Basque.
Voilà. Alors.
Et au fait, Thibaut, tu commentais les matchs amicaux, toi, non?
De rugby à 13.
Ah bon.
Au milieu de la France. Donc il arrive.
On est parti.
T'as joué à l'USAP, toi, non?
Très bien.
Je voudrais rebondir sur ce que tu disais concernant les compétitions de jeunes, l'école de jeunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le schéma des organisations de compétition, c'est pas la Fédé qui s'occupe de ça.
Hein, pas fait les
déplacements. C'est les ligues.
Non mais Stéphane, tu m'as pas compris. Je parle pas des écoles de rugby. Je parle de l'école éducation nationale. Le scandale, il est là. Le scandale, il est pas qu'on passe pas la télé. Le scandale, il est qu'on ne soit pas un sport scolaire, et je parle sous le contrôle de Louis Bonnery qui a été détenu. Il est là le scandale, il n'est pas ailleurs.
Excuse-moi, je voulais te poser la question sur le club de Corbeil. Oui. Tu peux nous dire où ça en est exactement, parce que au dernier congrès, on ne savait pas trop où ils allaient.
Ça me gêne un peu de parler pour eux. Ce que je sais, alors à l'heure actuelle, c'est que ils redémarreront pas en
élite 2.
Alors tu as plus de nouvelles que moi, Hervé.
Hervé.
Moi, j'ai des nouvelles fraîches puisque c'est tombé hier soir. Moi, j'avais eu Claude au bout vendredi, donc qui réfléchissait, il avait une réunion très importante lundi. Donc Claude partira l'an prochain en élite 2, donc ils vont rester en élite 2.
C'est bonne nouvelle.
Donc on va se retrouver en élite 2, il y aura 11 clubs.
Grande soirée.
Et là, il faut avoir une petite pensée pour Claude, quand même, qui a subi vraiment, c'est tragique. Il y a eu un incendie criminel, les sièges, les vestiaires, et c'est vrai qu'il a un long combat à mener. Bon, je pense que ça va être
un 12. On va faire la publicité sur la deuxième paille là à Palo, parce que vu qu'il va y avoir ce déplacement, parce qu'on n'était pas sûr de faire un déplacement la saison prochaine, donc, ben voilà, je fais un grand appel à tous les supporters de Palo et pour pouvoir nous aider financièrement à faire selon déplacement. Merci.
Oui, Louis, excusez-moi.
Pour revenir sur la question de Pierre en disant est-ce que le rugby à 13 est un sport scolaire ? Oui. Oui, puisque dans le cadre des activités sportives de l'UNSS en France, il y a chaque année un championnat de France scolaire de rugby à 13. Mais malheureusement, les plus grands absents dans ces championnats, ce sont les villes où on joue au rugby à 13.
Et
donc, à l'heure actuelle, nous avons des participants qui sont des professeurs d'éducation physique concernés par le sport en général, qui ont trouvé dans le rugby à 13 de grandes vertus pédagogiques pour l'apprentissage du rugby à 15 et qui préparent leurs équipes pour les championnats à 15 à travers les championnats à 13. Par contre, ce qui est quand même dommage, c'est que les centres traditionnels du rugby à 13, que sont les grandes villes de pratique de notre sport, dans les collèges et les lycées de ces villes-là, nous n'arrivons pas pour des raisons multiples. Et dont l'illustration est quand même le lycée de Carcassonne, dans lequel il y a le pôle depuis 20 ans, dans lequel on n'arrive pas à avoir une équipe de rugby à 13 scolaire.
Est-ce que tu sais que le Parlement européen a condamné l'État français pour ségrégation il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, parce que le rugby à 13 n'était pas. Non mais ça c'est important, parce que le rugby à 13 n'était pas dans les programmes scolaires, c'est pas un sport scolaire, et il y a eu une condamnation. Donc le ministère des Sports a zappé le truc avec un artifice, alors qu'on a quand même une députée européenne à la fédération, personne ne bouge. C'est dire, ça c'est scandaleux. Ça,
moi
c'est,
moi
ça,
je
c'est
pense scandaleux quand même que si chaque professeur d'éducation physique qui est résiste crée dans son établissement scolaire une équipe de rugby à 13, et si dans les championnats de France de rugby à 13, les équipes résistent comme c'était il y a quelques temps, le lycée Sabatier de Carcassonne, le collège de Limoux, le collège de Lézignan, rafler les titres de champion de France et tout ce qui s'approchait, ça restait à sa place, et peut-être, mais il faut quand même que chacun de nous y mette le sien aussi. Voilà.
Ouais, mais il faut sortir de ce cadre-là.
Non, mais il faut sortir de ce cadre-là, mais enfin, il faut quand même que là où on est, on le pratique, notre sport.
Là
où nous sommes, il faut que quand même.
J'ai vu des séances de cours de rugby, à Paris, à Marseille, une fois. Ils jouent à 13, hein.
Oui, mais
ils font du 13, hein. Ils font pas des empilages, hein.
Mais ils font les championnats 15
après.
C'est le meilleur produit, mais ils ne
présentent
pas.
On n'est pas présent.
C'est toujours pareil.
Bon, chers amis, nous rentrons dans la troisième partie de l'émission. La troisième
la troisième mi-temps qui est consacrée au Dragon. Alors que le tapas arrive, on est vraiment choyé ce soir, c'est parfait. On a eu des informations, visiblement, concernant le stade Brutus. Et Olivier, tu as l'air d'être très informé.
Nous avons fait une table catalane avec René, était présent aussi, où on nous a présenté donc les plans du stade. Alors c'est vrai que ça va être une tribune sur trois étages, desservie par des ascenseurs, où l'on sera accueilli sur un grand parvis à l'entrée ouest.
Il faudra envoyer.
À l'entrée ouest, donc un grand parvis qui va accueillir les supporters, et ensuite donc au premier étage, tout ce qui est restauration pour le club. À noter que Bernard Gouache s'est battu pour avoir une grande superficie au niveau du repas des convives, où 1400 personnes pourront se restaurer après le match. Donc ça va être quand même important au niveau des finances du club. Pour René, qui est le plus intéressé, un bar de 40 mètres sera dressé dans au niveau du troisième étage. Donc je pense qu'il sera... Il y a des ascenseurs, monsieur. Voilà, avec une tribune de 2700 places.
Par contre, vous pouvez placer la chaufferie aussi.
Oui, la chaufferie sur le toit, on le sait. Par contre, le seul petit bémol, c'est que le club comptait avoir le stade prêt pour février 2010, pour pouvoir lancer les abonnements donc en décembre. Et le représentant de la mairie de Perpignan a déjà annoncé 2 mois de retard de travaux. Enfin, il n'a pas annoncé 2 mois de retard. Il a dit que les travaux ont débuté en avril 2010, qui seraient finis en avril 2011. Donc Bernard a un peu tiqué, puisque forcément, ça te fait perdre pratiquement une année d'abonnement. Et il a signalé que si Dame Tramontane n'est pas de la partie aussi, pour pas qu'il y ait de retard au niveau du stade. Mais tribune de 2700 places assises, avec toutes les infrastructures magnifiques. On a vu les plans des vestiaires des joueurs qui vont être fabuleux. Je crois qu'un plus de 100 ou 150 mètres carrés. Ça va vous changer un peu des petits vestiaires de sous la gauche.
Ouais, dessous la bonne zone.
Voilà. Et... sous la bonne zone où apparemment une couloir a été faite pour que vous puissiez, sans ressortir de la tribune.
T'as vu le vestiaire de ton ami là.
Voilà. Il y aura tout sur place. Tout sur place.
Olivier,
la salle de muscu.
Tu peux expliquer
la salle
aussi
de lutte, la salle vidéo, tout.
Par contre, Olivier, tu pourrais continuer sur les recrues, parce qu'on sait très bien que tu es bien placé au niveau. Ah, bah, écoute, c'est le président qui nous a annoncé ça. Demandez à Olivier qu'on veut savoir quelque chose. Voilà, alors aujourd'hui, où c'est qu'on en est. Allez.
C'est ce que je disais avant l'émission, que l'année dernière, quand les entraîneurs étaient présents ici, on arrivait à en savoir un peu plus. Là, il me semble qu'il faudra faire parler M. Girette, peut-être qu'il en sait un peu plus aussi. Mais tout se passe apparemment avec Trent Robinson là-bas en Angleterre. Alors on a entendu parler de Carl Webb, en Australie pardon, de Carl Webb, souvent blessé, je sais pas. Steve, oui, souvent blessé. Carl Webb est souvent blessé, oui. Steve Mathai, le centre néo-zélandais, un demi de mêlée de Newcastle, mais bon, tout ça reste. Il y a peut-être des rumeurs. À qui part, je sais pas. Mais pour l'instant, pratiquement sûr, Jamel Fakir, à moins que. Dimitri Pellot, puisque j'ai vu sur le forum de Montpellier, il était en train de serrer la main du président de Montpellier. Pour
Fakir, il était aujourd'hui à Montpellier, je crois, à Castres,
non,
je crois.
Non, il était la semaine dernière.
Hein. Ah oui, mais j'ai lu ça.
Ça a été, d'après ce que j'ai entendu, mi-figue, mi-raisin. Donc, je ne mettrai pas ma main au feu que Jaja s'en aille définitivement à Castres. Et puis après, pour le reste, eh bien, j'en sais rien. Écoutez, Dallas Johnson est courtisé par les Cowboys de le Queensland, là-bas, qui le
veut. C'est un info d'Hervé, ça, non?
Oui, mais on va sur Sports Shock. C'est pour ça qu'il faut qu'il prenne un peu la parole. Hervé, des nouvelles?
Je ne suis pas le.
Si, sur Elima, tout à l'heure. Hein. Elima, peut-être que. Elima du côté de Bradford,
oui.
Peut-être
bon, Elima est proche de Bradford, mais bon. Oui.
Ah, ça, c'est une info. Hein.
Disons qu'il va avoir l'idée.
Dark, c'est lui qui l'a fait à tapant
de
touche.
Je sais pas, moi, j'ai refusé l'offre des Dragons, donc il cherche un club de Super League. Bon, je pense qu'il est aussi proche de John Kier, donc il a peut-être une opportunité sur...
Et Thomas Bosque est proche de Palo, mais du manager, pas de Palo.
Maintenant, tout ça, ce ne sont que des supputations. Peut-être que Olivier Lima, à l'arrivée, restera au Dragon, parce que... Peut-être qu'il rediscutera à nouveau avec Bernard Gouache, on ne sait pas. Hein, après, en ce qui concerne les joueurs australiens, comme le dit Olivier, bon... Tout est fonction de Trent Robinson. Effectivement, il y a quelques nouvelles dans la presse australienne, mais bon.
Et on est sûr du départ de Pello, t'es certain, oui. Pello, il part, oui. Mais
lui, il dit qu'il est parti. Il dit qu'il est parti.
Il est déjà parti dans sa tête, lui.
Le site de Montpellier, Keynes, l'annonce à Montpellier.
Après, ils n'ont pas signé, quoi. Donc.
À l'automne. Il faudrait que Thomas parle un peu au président Gouache aussi pour essayer de nous faire signer Sherwin.
Thomas, il a ce contrat l'année prochaine.
Qu'il nous fasse que Sherwin reste au moins un an de plus. Thomas, qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ouais, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure,
vrai que j'ai une très bonne entente avec lui, donc j'espère surtout qu'il va rester l'année prochaine. Ouais. J'ai une petite discussion avec lui.
Et l'éventuel retour de Shane Perry, éventuellement, non? Si jamais Sherwin s'en va, non? Thomas, tu veux pas orchestrer à la charnière avec Shane Perry, non? Bon, mais je vois que les calamars étaient bons, hein, hein. On peut clôturer. Il nous reste encore 10 minutes. Alors moi, je vais jouer un peu le rabat-joie. On construit un stade, c'est bien et tant mieux. Seulement, on peut s'apercevoir malheureusement qu'avec les résultats que nous avons, qu'on a de moins en moins de monde au stade. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ou est-ce qu'une fois que vous pensez que les résultats vont revenir, parce qu'ils vont revenir,
non, je crois que c'est
on peut être optimiste.
Non, je crois que tu as raison de poser cette question, puisque nous, on a fait quelque chose avec Jean-Marie, puisque... quand même nos abonnés, entre guillemets, les abonnés de Peña, de Peña.
Faisons ben, oui. Peña, justement.
Mais ben, aujourd'hui, ben, on n'a pas de bon retour, honnêtement. On a sorti... ben, effectivement, le 13, c'est comme ça. Jamais de bon retour. Ben, les gens, ben, ils sont un peu restés sur leur fin. Voilà. Alors, est-ce ouais, que...
Le un nouveau... c'est un peu comme ça, parce que moi, j'ai discuté avec les présidents de Peña samedi à la Fédoua. Ouais. Tout le monde râle, tout le monde n'est pas content. Ouais. Ouais, et après tout le monde va au stade et bon, et après il y a la victoire et tout le monde est content.
T'as,
et tout
t'as mieux, hey, Jean-Marie, t'as mieux. Et mais si ça sera très difficile, ça sera très difficile de reconvaincre du monde. Bon, peut-être que le stade, peut-être que le stade, cette tribune.
Cette année, bon, pour cette année, j'ai pas perdu du monde, on était beaucoup plus. Mais je sens que l'engouement pour l'année prochaine sera difficile.
C'est vrai. Ça sera très difficile.
Je pense qu'on perdra quelques membres, mais bon.
C'est vrai.
Si on sauve la saison avec la Cup. Peut-être qu'on triplera les abonnés l'année prochaine.
Voilà, il va falloir essayer de motiver les gens avec les arrivées d'éventuels recrues, un peu de renom, ouais, et puis il y a le stade, et puis il y a cette fin de saison qui n'est pas finie. Il voilà. Ne faut pas baisser les bras. Si nous, on baisse les bras, alors c'est foutu.
Moi, je te coupe. Imaginez 5 ans en arrière, voilà. 20 défaites, 7500 personnes au stade. Je re-signais de suite.
Ah non, mais c'est exactement ce que je disais ce matin.
Je tenais à dire.
Voilà. Ouais, tout à fait.
Moi, je pense que quand même, un des problèmes que nous avons eu ces derniers temps, c'est pas forcément les résultats, c'est le jeu qu'il n'y avait pas. Parce que les quelques. Non, tu vois, ne remets pas la tête.
Oui,
toi.
Ça aussi,
attends, nous avons passé des semaines et des mois à s'ennuyer au stade.
Le directeur n'est pas content.
Aujourd'hui, il y a une culture dans le stade. Non, mais la culture des résultats, c'est une chose, mais les trésistes convaincus qui soutiennent les dragons, ce sont quand même des amoureux.
C'est le directeur René qui remue la tête.
Non, mais attention. N'oubliez pas une chose.
Mais c'est
pas
René. Les jeux qui se produisaient là. Non, mais... les derniers matchs, même en perdant, le public s'est levé, les gens sont contents. Parce qu'on produit du jeu. À un moment donné, ils ne produisaient plus de jeu dans cette équipe.
Et non, mais c'est pas le même public. Il y a René qui dit, il y a René qui parle d'un club ami voisin. Il faut rendre cette justice au public trésiste qui soit de Perpignan, de Carcassonne, d'Avignon, d'Albi ou de partout. Le public trésiste est un public de connaisseurs et il veut voir son équipe gagner, il veut voir son équipe faire du jeu et voilà, ça a rien à voir avec nos amis d'à côté où ils viennent pour le folklore.
Enfin, excusez-moi là. Voilà, je rejoins Louis quand il dit que les gens ils se font chier au stade, il faut être honnête. Moi je suis trésiste de la lame toujours. L'année dernière, je me suis fait chier à mourir. Je me suis régalé. Je suis allé voir cette demi-finale contre Leeds. Je me suis vraiment régalé. Et cette saison, ça a été pareil. Je me suis fait chier. Et les gens que j'ai amenés, ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils ont vu. C'est vrai. Bon, maintenant, c'est faute à quoi? Faute à l'entraîneur, faute aux joueurs, faute à un état d'esprit. Il y a les années 100. Il y a quand même 7500 personnes au stade. C'est ce qui est important aujourd'hui.
Il y a le capitaine qui reste, il est capable de s'enflammer comme très vite sur une action de jeu parce que c'est un public de connaisseurs.
Ça me plaît quand tu dis un public de connaisseurs, ça c'est hyper important.
Non, c'est vrai, on est d'accord.
Et des connaisseurs, il y a de moins en moins. Hein.
Oh, mais il y en a toujours.
Thomas, bien sûr, toi tu peux lancer qu'un appel hein, pour les supporters. Hein, que... On peut reconnaître quand même qu'ils vous en a jamais lâché. Cette année, ça n'a jamais lâché. Et. Pardon ? Non, mais 4000 qui sont partis, c'est sûr. Tu fais des saisons où tu es troisième, où tu fais un quart de finale, une demi-finale. Il est normal que tu perdes un peu de public, mais je veux dire, on n'est pas tombé à 2000 personnes comme à Londres ou 3000 personnes. Ça s'est jamais passé. Les joueurs n'ont jamais été sifflés. Ça, j'espère que les joueurs l'ont en tête. Les joueurs n'ont jamais été sifflés. Il y a eu une bronca une fois parce qu'ils se croyaient. Il y en a deux ou trois qui se sont perdus, des Mégirales qui sont venus. Mais il n'y a jamais eu de bronca, il n'y a jamais eu de joueur insulté. Il y a jamais un type comme
Bell. Il y a Bernard Young derrière qui a remis de l'ordre.
Non, mais un gars comme Steven Bell. que tout le monde a dit qu'il aurait fallu qu'il aille faire un tour dans les tribunes cette année. Le joueur l'a reconnu lui-même. Il a dit, si j'avais pas été australien, je serais parti dans les tribunes. Le gars, samedi au stade, il avait encore des personnes qui avaient des cloches, qui remuaient ses cloches pour lui faire plaisir. Il se retourne vers le public, il applaudit. Ça s'est toujours très bien passé avec les joueurs. Les joueurs ont toujours été soutenus. Il n'y a jamais eu, et ça j'espère que les joueurs l'ont en tête. Et puis...
Non, mais c'est sûr qu'on le ressent sur le terrain de toute façon. On a toujours été soutenu, malgré les résultats. C'est vrai que l'affluence est un peu en baisse, mais bon, les vrais trésistes sont là et ils nous supportent jusqu'au bout. Après, pour revenir à ce que disait Louis, je pense que c'est vrai que c'est beaucoup les résultats quand même. Qui font la perte du public, oui, plus que la manière. Je pense que dès que tu as des résultats, tu as le monde qui vient. T'as
c'est les deux. Tu vas gagner un jeu mal, on va te le pardonner, mais là, tu perds un jeu mal. Quoi.
Ouais, voilà, oui, c'est sûr que là.
Il y a eu les deux. Quoi.
Bon, et Thomas, pour revenir à cette demi de Warrington, tu sais que nous, les supporters, on a quand même une pilule qui n'est pas passée depuis l'année dernière. C'est ce match à Barcelone. Tu sais que ça nous a pris pas mal de temps, pratiquement 3 mois pour préparer. Ouais. Tu sais qu'il y avait plus de 100 bus à Barcelone.
Je sais.
C'était pour nous historique. Sur les Ramblas, ça a été magique. On ne regrette pas la journée. On regrette le match. Et je pense que cette demi-finale, c'est votre revanche à vous aussi, les joueurs, pour votre public, d'aller réparer un peu ce qui s'est passé. Puisque j'avais une personne qui avait un cancer à l'époque. Il est toujours en vie. Un cancer. Il est venu à Barcelone avec la poche en pleine chimio. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, c'est les Dragons qui me sortent de cette merde. Et quand je l'ai vu dans le stade complètement défait, plus par votre résultat que par sa maladie, je me dis que là, on a des vrais supporters et que là, vous nous devez quelque chose le jour de cette demi-finale. Voilà, c'est juste que pensez à Barcelone, que nous, on a fait de cette journée qui a été une journée magique. Eh bien, faites-nous rêver.
Ouais, ça aurait une belle revanche, je pense. C'est vrai que ça avait été une belle journée et malheureusement, le score... au bout, et la performance n'a pas été idéale. Et on verra bien pour cette demi.
Qu'est-ce qu'il faudra faire pour battre Bradford? Tu vas me dire compléter les chaînes, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, un mot d'ordre particulier? Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie à mettre en place particulière?
Warrington.
Ouais. Est-ce qu'il y a, pas quelque chose en plus qui doit émerger de cette équipe plus que le grand classique, conserver le ballon et arriver jusqu'à 5ème tenue.
C'est vrai que ça va être un match un peu spécial. C'est vrai que on va jouer tout sur un match sur 80 minutes. 80 minutes de Wembley, je pense que c'est un rêve pour tout joueur. Surtout, moi, personnellement, j'avais pas fait la finale parce que j'étais blessé. Donc, c'est vraiment un rêve de jouer. Et après, les clés du match, ça va être... de conserver le ballon comme tu dis, c'est vrai que c'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un bras de fer et c'est au premier qui va craquer. Ça va être un match, on s'attend à un match très très physique, très très dur. On connaît l'équipe de Warrington, ça a été très physique le week-end dernier, je pense que ce sera encore plus pour cette demi.
D'accord. Tu penses qu'il y aura une stratégie défensive aussi à mettre en place par rapport à Monaghan, par rapport à Breyers?
Ben ça a été mis en place le week-end dernier. C'est vrai que ça a pas trop mal marché, donc après à nous de bosser là-dessus, de bosser sur des vidéos et j'espère que ça payera.
Moi je pense que les clés, c'est vous qui les détenez. Hein. C'est pas l'entraîneur, c'est pas l'arbitre, c'est vous. Vous êtes seul, vous serez seul sur le terrain.
Ouais, voilà, après c'est.
Vous êtes capable de reproduire le match que vous avez fait samedi avec quelques rentrées, et voilà, je pense que ça devrait passer.
Moi, j'y crois. Malheureusement, il y aura un facteur qu'on n'a pas pris en compte, mais c'est le public. Parce que je crois que le stade fait 12 000 personnes. Il y a 10 000 billets vendus à Warrington. Donc, ça compte quand même. Je pense que ça peut compter un peu.
L'année dernière, j'étais en demi-finale contre Leeds. Il y avait 5 Catalans. Et le public n'y a rien fait. Que si on n'avait pas fait une erreur, l'entraîneur n'avait pas fait une erreur de sortir deux joueurs en même temps, dans les dernières minutes, on avait gagné. C'est tout, hein.
Final. Oui.
Et l'année dernière, tu étais avec moi à Enderfield, on était 20 pèlerins contre 6000 supporters Enderfield.
Et on nous a entendu encore.
Voilà, on a foutu le bordel et on a gagné.
Tout à fait. Surtout le soir, on nous a entendu.
Après, moi, je pense que c'est surtout la motivation et l'envie. Si vous avez la même envie, la même motivation que samedi dernier.
Ouais, après, il faut faire abstraction à tout ce qui est.
Après, ça se passe tout dans la public.
Quand on est sur le terrain, après, c'est vrai qu'on n'y fait pas. On n'y fait pas cas.
Derrière, les demi vont se régaler. Si devant ça avance, ils ont tout le loisir de jouer.
Voilà.
Je pense que ça doit passer.
Non, mais moi, je pense qu'ils ont pris une sérieuse option sur la victoire à Normalement, ils s'entraînaient là. Victoire à Brutus sur Warrington. Parce que Warrington, maintenant, c'est eux qui ont les grillons dans la tête, comme on dit. Pas les Dragons.
Ah oui. Justement, Didier, tu nous dis que tu as vu Stakul faire briller Greenshield.
Ouais, moi, on parle si Ferriol rentre, si Greenshield rentre. J'ai désolé l'équipe que j'ai vue samedi. Ouais, faisait plaisir à voir. J'ai vu un Stakul qui m'a impressionné dans un rôle qui n'est pas le sien. Il est arrivé chaque fois dans le bon tempo, dans l'intervalle. Il a traversé le terrain. Même dans les centres, il a marqué un essai en mettant le mec dans le vent qui faisait un crochet.
Il était très fort.
Thomas a tenté, tenté un coup à la deuxième minute, un coup de pied par-dessus, troisième tenue, et on a marqué. J'ai vu Bell prendre une balle de volée avec le mec qui arrive en travers. On le dit un petit peu craintif, je ne l'ai pas trouvé craintif. Il marque au bord de la ligne. Mais si l'équipe qu'on a vu samedi, c'est la même, ça ne me gêne pas.
Le jeune Simon qui monte aussi en puissance.
Le jeune Simon qui a ce bon joli match. A fait quelques mois, une bonne rentrée.
Et a noté le caviar de Thomas pour Vaccari.
Oui, oui, tout à fait.
Qui est parti à l'heure et on voit bien à la télé que Thomas annonce, il fait un signe du bras à Vaccari, prépare-toi, non, je vais...
C'est celui
je
que
vais
je parle au début de la première mi-temps. Hein. Voilà. C'est tout maintenant, après... Hein.
Tu disais Pierre, Chala, Pierre tu disais où Hervé ?
Moi je crois en vous et vous gagnerez.
On ne disait rien que Thomas éteigne la cigarette.
Sa troisième cigarette.
Il me dit bizarre. Hein.
C'est bon ? Bon allez. Bon messieurs, dames, bien, voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Mais avant de se dire au revoir, donc la prochaine émission sera effectivement. Quelle date, Olivier ?
Pour quel... À Londres.
Oh, la date, c'est monsieur René.
À Londres.
Quand il sera pris, qu'elle aura pris
Avant Londres.
Avant Londres. Ou avant Wembley. Oui, non, mais on verra en fonction.
Allez, quand vous voulez.
Donc, ça se situera au petit resto Haï, le plus gros sponsor amical qu'on avait promis d'y rendre visite. Donc, on sera au petit resto d'hier. On va remercier Chantal Margalet et le magasin Camomille à Yé sur Tête qui est sponsor de l'émission. Régis Ribert et le magasin Domagest à Perpignan. L'amicale des Dragons de la Tête. Et puis, je vous dis bonsoir à tous et je laisse la parole à monsieur Bonneries pour clôturer l'émission.
Un grand merci à Zoulou, notre ami Zoulou, qui est notre technicien, sans qui l'émission ne pourrait pas exister. Donc, chers amis, à très bientôt et on va croiser les doigts pour que dimanche les Dragons bien remportent la demi-finale. À bientôt!